Morin.
You ready for this?
Live. Très, 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 très bon.
Live.
C'est pas une blague, là.
En vacances.
Les meilleurs au monde.
Radio X.
Ouais, ben si je vous disais qu'il y avait du trafic ce matin, sans bon sens, que vous êtes pogné sur le pont, ce serait pas vrai. Ça va très, très bien sur les routes à l'heure actuelle. C'est presque dimanche matin. Profitez-en. C'est clair qu'avec des journées fériées, même en plein milieu de la semaine, il y a du monde qui en profite pour se faire de longs, voire même de très longs week-ends. Si vous avez besoin d'aide pour choisir la bonne peinture, profitez du 2-pour-1 sur les peintures du luxe. Bétonnel du luxe, c'est les experts canadiens de la peinture. Offre valide jusqu'au 6 juillet. Comment vas-tu, Nick?
Salut, Nan, ça va, toi? Bonjour tout le monde. Bon Canada en retard à vous tous.
Bon Canada, j'imagine que tu as fêté ça en grand, le Canada.
Oui, tu as beaucoup d'humour, mais tu sais, je veux pas non plus. On viendra pas fou avec ça. Je suis pas un ayatollah de tu sais, vous avez le droit de fêter la fête du Canada, la fête de ce que vous voulez. Puis il faut que ça reste une fête quand même. Et puis je sais qu'il y a des gens qui la fêtent. C'est vrai qu'au Québec, ils sont pas. C'est très particulier comme situation, hein? Tu vois ça pas mal nulle part ailleurs au monde, c'est-à-dire une fête nationale dont une partie importante de la population du pays qui la fête se fout un peu. On est en train de déménager, on magasine, tout. C'est pas tout qui est fermé. Hein? Donc, on peut pas dire que c'est une célébration très vibrante au Québec. Moi, en ce qui me concerne, j'ai de la difficulté à fêter ça parce que je considère que le Canada est un pays qui est hostile à ma culture, mon peuple, ma nation et son émancipation. Donc, je suis un peu mal à l'aise d'aller agiter des drapeaux puis chanter au nom du Canada. Mais ça, c'est moi. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi là-dessus.
Ouais, ben moi, je suis comme mes figues, mes raisins parce que... Je sais pas pourquoi, mais j'imagine que avec le temps, quand j'étais plus jeune, peut-être. Mais moi, dans ma tête, la Confédération, le 1er juillet, c'est oui, fêter le Canada, mais c'est aussi, surtout, fêter l'armée canadienne, les militaires canadiens, tu sais, qui ont offert... À Québec, entre autres, il y a une levée de drapeau qui est beaucoup faite par l'armée, tu sais. Il y a beaucoup d'anciens combattants autour de tout ça. Dire merci à tous ceux qui ont été nous défendre lors des conflits depuis que le Canada existe, je trouve que ça sert à ça aussi le 1er juillet. Donc, ce côté-là, oui, je suis d'accord, je vais toujours les remercier, je vais toujours être reconnaissant. Mais effectivement, là, de fêter l'unicité canadienne, ça, c'est autre chose.
C'est un peu compliqué. Tu sais que ça s'appelait la fête du Dominion jusqu'en 82. Ça n'a pas un enracinement non plus. La Saint-Jean est un truc qu'on fête depuis beaucoup plus longtemps, y compris dans la francophonie canadienne en dehors du Québec. On l'oublie souvent, là. Moi, j'ai déjà fêté la Saint-Jean à Kapuskasing.
Salut, mon Jésus!
Wow.
C'est correct, man?
Oui, je suis correct. Oui, t'es là, Nick?
Oui, je suis là.
OK, c'est bon, on a eu des problèmes sur ton... On a comme eu du coulage sur ton pot. C'est pas grave, tout est rentré dans l'ordre.
J'entendais quelqu'un jaser, oui.
C'était pas...
Un fédéraliste.
On a été hackés par Service Canada.
Le SCRS, on va en parler à partir de Pierre
Belmondo. C'est ça, c'est tout. Donc, effectivement, c'est réglé, la fête du Canada. Il faut absolument qu'on parle, avant de rentrer dans les autres sujets, de John-Yann Leblanc.
Oui, qui s'est signalé... Alors là, elle se signale parce qu'elle est à nouveau candidate aux élections, mais ce qui est dans Darcy McGee. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2018, elle avait été interrogée par Guy Nantel, tu sais, dans ses micro-trottoirs, là, Vox Pop, où il pose des questions simples à des gens qui répondent des imbécilités invraisemblables. Alors là, il lui avait demandé qui est le fondateur de la CAQ, le chef fondateur de la CAQ. Elle avait... Ben écoute, aucune espèce d'idée.
On l'écoute.
OK, parfait.
Qui est le chef fondateur de la CAQ?
Bonne question. J'en ai vraiment aucune idée, en fait.
Aucune idée?
Aucune idée.
En quelle année a lieu le référendum de 80?
En 85.
T'sais, la couleur du cheval blanc de Napoléon.
C'est ça.
T'sais, ça va bien.
Tu sais, Nick, elle se fait demander qui est le fondateur de la CAQ, puis elle le sait pas. C'est une affaire. Mais l'autre, en quelle année le référendum de 1980, puis elle répond 85?
Oui, oui, qu'est-ce qu'on fête à Noël? Pâques? Non, mais c'est un peu curieux. Mais écoute, on va... Bon, c'est pas non plus... Alors, ce qui est encore plus amusant, c'est qu'elle est candidate pour la CAQ. Et ça, c'est tout à fait particulier. Écoute, présumons qu'elle a l'air jeune. Elle devait être très jeune à l'époque. À l'évidence, c'est pas quelqu'un qui arrive avec une culture et un enracinement politique. Peut-être qu'elle s'est plongée là-dedans par après, puis qu'aujourd'hui, elle est passionnée. Alors,
non, peut-être.
Je ne vais pas non plus faire le scandale du siècle avec ça, mais disons que c'est comique. Disons aussi que ça dit quelque chose sur les espoirs de la CAQ de ravir Darcy McGee, qui appartient aux libéraux depuis le paléolithique et probablement encore pour quelques airs et glaciations.
Non, effectivement, ça va être difficile. Hey, on parlait du Canada et de... Tu sais qu'hier, quand j'ai regardé les critiques concernant le Canada, il y en a beaucoup qui parlaient de la diversité et de l'esprit de Justin Trudeau de faire rentrer le plus d'immigration possible. Hier, Justin a décidé de nous surprendre.
Oui, c'était... ça fait quelques jours, là, je pense, il y a quelques jours, c'était en Finlande, il parlait à un journaliste, il était dans un sommet ou une conférence quelconque, et il a admis... avoir laissé entrer trop d'immigrants au Canada pendant une certaine période là, pandémique, je crois, ou autour de la pandémie. Et il s'est épanché sur la notion de capacité d'intégration. Il a un peu défini ça. Il a dit il faut qu'on partage des valeurs communes. Ça ne devrait pas être non plus un héritage des racines trop profondes qui pourrait exclure les gens. Bon, on reconnaît bien Justin Trudeau, mais il a quand même parlé de capacité d'intégration. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Ce que ça nous rappelle, là, c'est que pour une certaine gauche, et Trudeau en est totalement sur ces questions-là, faire des constats qui touchent l'immigration... relève automatiquement du racisme, de la xénophobie, de l'exclusion et tout ça. Sauf quand, 5 ans plus tard, on finit par en admettre soi-même un petit bout. Nous, quand on l'admet, on le fait pour les bonnes raisons et surtout pas parce qu'on a des passions tristes ou des mauvais sentiments par rapport à l'inclusion des autres cultures. Alors, on pourrait en rire... Mais c'est pas très drôle parce que pendant toutes les années où ça s'est passé, Justin Trudeau renvoyait au rang de déchets, finalement, les gens qui faisaient les constats. Et aujourd'hui, il les rejoint. Franchement, il y a quelque chose là-dedans qui fait pouette-pouette. Puis un moment donné, il faudra bien apprendre la leçon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser intimider par ceux qui te traitent de raciste sans arrêt lorsque tu fais
En même temps, on a-tu le droit de se demander si c'était lui qui était boss pour vrai?
Oui, oui. Mais dans son cas, oui, pour toutes sortes de raisons.
Tu sais, il commence de plus en plus... Tu sais, plus ça va depuis qu'il est parti, là, ça va faire un an et demi qu'il n'est plus là. On a l'impression que c'était vraiment une marionnette. Là. Tu sais, tu le regardes aller dans la vraie vie, là, sa vie de citoyen normal, puis tu te dis, voyons donc, ça se peut pas que ce gars-là ait été premier ministre pour vrai, là.
Oui, je te dirais que moi, j'avais déjà cette impression avant, mais bon, je ne veux pas me prendre pour un autre.
Non,
mais,
c'est correct.
Il y a quelque chose qui cloche avec Justin Trudeau. Là. C'est cute, là, les photos avec la casquette à l'envers, puis les shooters, le Goldschlager avec Katy Perry dans les festivals. Bon, mais quand tu as été premier ministre, tu continues d'assumer, de porter, de défendre un peu l'honneur de cette fonction-là. Même
bien,
si
comme aux États-Unis, t'es président, tu te fais appeler Monsieur le Président toute ta vie. Mm.
À vie, d'ailleurs, on a institué ça. Même au Québec, on peut dire Madame la Première ministre Apolline Marois. Quand t'as été premier ministre, là, tu deviens pas clown, farceur, vendeur de bébelles ou. Tu te gardes une certaine hauteur.
C'est ça.
Ça vient avec la fonction. T'as été bien payé. Ton compte de dépenses te suit. Je comprends que c'est un peu plate là, pour ceux qui veulent revivre leur adolescence à 50 ans, mais je pense que Trudeau est vraiment dans un état d'esprit ici où il veut nous démontrer que lui, il n'en a rien à foutre finalement de tout ça. Et puis, on l'a jeté. Alors, tant pis pour vous, moi, je redeviens un adolescent. C'est un peu moyen. Puis oui, ça... Je suis d'accord avec toi sur l'impression que ça donne sur qui était vraiment le patron à l'époque. Parce que ça vient vraiment mettre en lumière un côté enfantin chez celui qui faisait des blackface, hein, par ailleurs.
Oui.
Qui fait tout le monde, la morale à tout le monde sur le racisme. Là. Alors, on aura compris que je ne suis pas un fan.
Non, effectivement.
J'ai beaucoup de critiques à l'endroit de Trudeau. Je pense pas que ça a été un grand premier ministre et c'était le fils de...
Et ça va si rester.
Justin Laviolette, là, je pense pas qu'il aurait été premier ministre du Canada.
Difficilement. Ça aurait été très, très difficile. Pour vrai, c'est difficile à comprendre.
Je reviens à son propos sur l'immigration un instant pour te parler d'une chose. Me permets-tu?
Je pense que tu t'en allais quelque chose. Je le permets d'aplomb.
Parce que je veux te parler. Trudeau, c'est le multiculturalisme, c'est donc l'ouverture tous azimuts et les leçons de morale. Il y a le journal La Presse hier qui s'inscrit un peu dans cette mouvance-là aussi, pas hier, la semaine dernière, qui, dans un article de Philippe Mercure...
Ouais, ben c'est là que j'allais te lancer.
Ouais, vas-y.
Ben, c'est sur l'article de Philippe Mercure. Ben, dis-moi ce que t'en penses, je vais te le dire après.
Oui, OK. Alors, Mercure rapporte, il parle d'un sondage là, qui a été mené en Montérégie et en Estrie exclusivement, mais tout de même auprès de 2000 personnes, quelque chose de sérieux, qui arrive à 78 % de répondants qui pensent que les Québécois issus de l'immigration ne font pas suffisamment d'efforts pour s'intégrer.
Oui.
Et ce sondage, ça a été fait par des gens sérieux. Là. On parle de Mélissa Généreux, là, spécialiste en santé publique, professeure à l'Université de Sherbrooke. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mercure aborde ça comment? Bien, en ayant consulté, écoute, ça ne s'invente pas, des experts en radicalisation et en extrémisation. Et là, on passe l'entièreté du texte à s'interroger sur ce dangereux glissement vers l'intolérance. Hein? Vois-tu comment la machine
fonctionne? J'aime ça ce que tu dis, Nick, j'aime ça.
C'est... Écoute, d'une part, on invite ici des flux d'immigration titanesques. En plus, on invite les immigrants à ne pas s'intégrer, à conserver leur culture, à célébrer leur culture, à revendiquer davantage d'espace, par exemple, pour leurs revendications religieuses. On pense ici, bien sûr, à une certaine vision de l'islam. Puis ensuite, quand les gens ne sont pas plus fous que n'importe qui, puis ils se disent « Coudonc, on commence à sentir un peu qu'on s'intègre pas bien », bien là, qu'est-ce qu'on fait? Je te le donne en mille. On envoie la police, parce que dans le même article, on nous apprend que la police va enquêter sur... pardon, je fais le croisement avec un autre article qui est celui qui parle de la mosquée en Saskatchewan. Là-bas, on va envoyer la police, là, parce que grâce à la nouvelle loi C-9 qui élargit la notion de propos haineux, on s'interroge sur les messages pas fins que la mosquée a reçus. Alors, on boucle la boucle. Tu demandes aux gens de ne pas s'intégrer, tu les fais venir en grand nombre, et quand la population locale se sent un petit peu tassée dans un coin, on la traite de raciste et on y envoie la police pour enquêter dessus.
Bien, je renchérirais aussi pour dire que...
Nick, je te présente Camille.
Oui, enchantée.
Bonjour, Camille.
Très content de travailler avec toi. Tu sais, on va même mettre l'étiquette avec le spécialiste à radicalisation. Tu sais, ce mot-là, je trouve qu'il est lourd de sens aussi, de dire qu'un désaccord maintenant fait que tu es radicalisé. On va vraiment loin.
Ben on va très loin, puis je veux dire, c'est pourquoi... Là, on parle... Est-ce que c'est vraiment un désaccord? C'est seulement des gens qui font un constat,
oui.
Qui disent « Oui, là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup autour de moi, puis je les regarde aller, puis je trouve qu'ils sont pas très intégrés. » Tu sais, peut-être, à la limite, peut-être que le constat est erroné dans la mesure où, dans la première génération, l'intégration est toujours moins bonne, et à l'heure actuelle, on a énormément d'immigrants tout fraîchement arrivés. Donc, bien sûr, ça... nous donne une impression difficile, mais justement, le nombre est en cause. Et selon Mercure et les autres, il ne faudrait même pas poser de questions sur le nombre non plus.
Bien, constat, Nick, constat ou opinion? C'est un sondage d'opinion aussi. Est-ce que vous trouvez oui ou non? Bien, c'est une opinion.
Bien, en effet, exactement. On n'a pas demandé aux gens de faire une thèse de doctorat scientifique. On leur a demandé leurs impressions.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut les blâmer d'avoir cette impression-là? Moi, je vais te dire, franchement, je pense pas. Il y a un expert dans le texte de Mercure qui dit que le désaccord, la réprobation, désapprouver ce que l'autre fait, c'est un peu le début du glissement vers l'intolérance, vers la radicalisation.
Oui.
Ça s'invente pas. Alors moi, si j'aime pas tellement la... La poutine que tu m'as servie au restaurant, je suis en train de me radicaliser.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'on est en train de nous dire.
Puis l'autre chose, c'est on parle souvent aussi du... d'une certaine déconnexion qu'il y a entre la classe journalistique puis le monde, là, la plèbe, les personnes lambda que vous rencontrez dans la rue tous les jours. Et Philippe Mercure est surpris, non?
Il n'y a pas le meilleur exemple. Exactement.
Il est surpris.
Il fait la surprise. Oui, c'est ça.
Il est sous le cul de voir ça. Mais c'est parce que s'il faisait juste aller d'un potluck deux, trois fois par année puis qu'il se mettait à jaser avec le monde pour vrai, là, ça se peut pas que tu sois surpris de ça. Là. Surtout que le sondage en tant que tel, parce que je sais qu'on fait du fort sur 78% %-là, mais le sondage en tant que tel n'est pas si pire que ça. Là. On se rend bien compte que c'est pas du monde qui sont radicalisés.
Absolument pas. Puis les gens continuent de reconnaître des mérites importants à l'immigration, notamment en termes économiques et tout ça. Puis c'était vrai aussi dans d'autres sondages récents, d'ailleurs, qui ont montré que les Québécois étaient globalement, somme toute, là, moins réfractaires que le reste du Canada à l'immigration en ce moment, faut quand même le dire. Puis tu parles de la déconnexion. Ce qui ajoute beaucoup, je pense, au cynisme et à la perte de confiance d'une grande partie de nos concitoyens envers les grands médias, c'est que voici des gens qui sont souvent bien terrés dans des enclaves protégées, là, dans Rosemont, Saint-Lambert, là, je parle de la région de Montréal, mais vous avez l'équivalent, évidemment, à Québec, et qui, de ces endroits-là, font la morale à des gens qui vivent dans des quartiers beaucoup plus compliqués où eux n'iraient jamais s'installer et envoyer leurs enfants à l'école en leur disant « Vous êtes raciste parce que vous vous sentez en minorité dans des quartiers où, je le rappelle, là, tu peux être largement minoritaire comme Québécois, Canadien, Français à plusieurs endroits maintenant. » Puis c'est pas facile de composer avec ça. Moi, mon fils revient de l'école, il a appris à sacrer en arabe, hein, avant de le faire en français.
les appels, tu sais, parce que tu as fait du pouce là-dessus, je vais revenir, là, les appels à la prière qu'on fait en Saskatchewan. Ouais. Écoute, on les a vus arriver, on les a vus venir en Europe il y a de ça une quinzaine d'années. On les a vus arriver également aux États-Unis. Quoi, ça fait 5-6 ans qu'il y a des villes, qu'il y a des appels à la prière musulmane qui sont faits.
Sonores, là.
Ouais, oui, des appels sonores avec des gros haut-parleurs qui disent « OK, là, c'est le temps. C'est le temps, mettez-vous à genoux, tout le monde. » Puis on s'est dit « Un jour, ça va arriver au Canada. » Le monde disait « Ben non, ça n'arrivera jamais. » Mais c'est là, là.
C'est là, et encore une fois, ceux qui disaient « ça arrivera jamais » nous traitaient de racistes, disaient « vous êtes des complotistes, vous exagérez, vous êtes complètement perdus », et hop, ça arrive. Et quand ça arrive, là, tout à coup, on nous dit « ah oui, oui, mais en fait, c'est normal, il faut, c'est l'ouverture ». Et l'imam de cette mosquée, pour parler de cette affaire-là, était tout, tu sais, comment dire, c'est pas un homme vindicatif ou agressif, lui, il dit simplement « Le Canada est multiculturel. J'ai voulu que notre mosquée se fasse entendre et que les gens nous découvrent et s'habituent à nos coutumes et tout ça. C'est bien sûr, ça fait pas l'affaire à plein d'égards. Et évidemment, et je ne cautionne pas ça parmi les critiques, il y a eu des menaces, des propos inélégants, pour dire le moins. Et là, ben là, après ça, on s'étonne. Mais moi, je pense que c'est parce qu'au départ, il y a un vice, là. Tu peux pas comme ça inviter l'immigration à très peu s'intégrer, finalement. Là.
Non, effectivement.
Sans qu'il y ait des contre-coups, puis t'en étonner après.
On annihile un peu aussi la possibilité de questionnement. La docteure Généreux, dans le texte, essaie de coucouiser les gens qui sont défavorables à l'immigration, encore en faisant des parallèles à ceux qui s'identifient à la droite, qui ont une faible confiance pour les institutions. L'anxiété, la dépression, c'est aussi plus défavorable à avoir une mauvaise image de l'immigration. C'est comme si on tombe toujours dans cet apanage-là, alors que le nationalisme n'est pas intrinsèquement de droite. Là. Se poser des questions sur ces enjeux-là, c'est sain. C'est pas parce que tu es de droite que tu vas te poser des questions sur ces enjeux-là.
Et vice-versa, d'ailleurs.
Exactement. Les deux côtés sont bons.
On voit tout le monde à droite dès qu'il se pose ces questions-là. Il y a une partie de la gauche qui est en train de disparaître, il faut le dire, mais elle existe encore, qui, elle, est aussi nationaliste. Si tu vas en France, Georges Marchais, grand communiste, était anti-immigration.
Oui, bon exemple.
Il y a des décennies de ça. Et tu as raison, Mélissa Généreux nous psychanalyse collectivement. Tout ce texte-là le fait, puis ça nous renvoie un dernier élément à quoi tout ça me fait penser, c'est qu'il y a véritablement dans une certaine gauche, appelons-la woke là, ou néo-progressiste, quelque chose qui est complètement indépendant de la volonté de faire des politiques publiques saines et de travailler pour le bien commun. C'est plutôt une recherche de sens et d'occasion de démontrer sa supériorité morale. Et ici, on est clairement là-dedans parce que comment s'étonner, encore une fois, que des populations réagissent lorsque les flux d'immigration sont aussi forts et lorsque l'intégration est aussi compliquée? Alors, on a vraiment l'impression que on ouvre la machine pour ensuite faire semblant d'être étonné que les gens réagissent mal, pour ensuite pouvoir leur faire la morale. Il y a de ça là-dedans aussi.
Quand on parle de l'axe gauche-droite, là, il y a plusieurs personnes à gauche, justement, là, sur toutes les petites pages qui font beaucoup de pouces sur le fait que le Parti conservateur annonce des candidats dont certains ont déjà collaboré une fois ou deux à Radio X. On avait un chroniqueur, nous, dans Mort à Live, qui s'appelle Guillaume. Il s'appelle encore de même, Guillaume Rousseau. voici un chroniqueur de Morel Live qui se présente pour la CAQ.
Oui, mais dans son cas, c'est pas ça qui a été retenu. Hein?
On fait pas allusion, on parle tout à ça.
Et c'est une candidature, moi, ça fait longtemps, les gars, que je vous dis, regardez aller Guillaume Rousseau, c'est quelqu'un qui a pas seulement des ambitions, mais une idée très, très, très précise de ce qu'il veut faire en politique, et c'est une idée qui est plutôt unique et originale. Guillaume Rousseau, pour ceux qui le connaissent moins, c'est un grand nationaliste, autonomiste. Il est souverainiste à l'origine, mais il considère que le référendum, c'est très peu probable qu'il soit gagnant et une défaite serait catastrophique. Et qui préfère l'action. Et franchement, à lui seul, il a fait faire davantage de gains autonomistes au Québec que le Parti québécois au complet. Là. Sauf peut-être à l'époque de... Évidemment, la loi 101 et des mesures comme celle-là. Rousseau a été dans de toutes les batailles autonomistes de la CAQ sur la loi 21, la loi 96, le recours à la disposition de dérogation comme doctrine, comme façon pour le Québec d'affirmer sa différence dans le Canada. Les comités constitutionnels, notamment pro-Rousseau, là, qui recommandait une constitution.
Est-ce que tu es en train, excuse-moi Nick, est-ce que tu es en train de dire que la candidature de Guillaume Rousseau va servir à la CAQ de réponse à toute la question référendaire?
Écoute, il est un peu trop tard pour la CAQ, on va se le dire, là. Puis Rousseau est loin d'être fou, c'est un analyste politique aussi. Il sait très bien qu'il y a très peu de chances de prendre le pouvoir. Mais oui, évidemment, il sert à la CAQ d'argument. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est la réponse des militants péquistes, hein, qui sont très, très fâchés contre lui. C'est de la traîtrise, c'est de la candeur. Hein? T'es ingénu, t'as pas compris, tu vas perdre ton temps. Je pense que Rousseau... joue plusieurs coups plus loin. Je pense qu'il pense à l'après. Il se dit probablement que le référendum n'arrivera peut-être même pas. Et s'il arrive, il sera probablement perdant. Et il veut tenir le fort d'un autonomisme musclé. Ils sont pas nombreux. Hein? Faut comprendre que Rousseau, ce qu'il souhaite faire, lui, c'est des gestes unilatéraux, là. Il veut tester, pousser le cadre, élargir les pouvoirs du Québec plus que ce que la Constitution, en principe, nous permet de le faire. Alors, c'est dommage que les péquistes... Comment dire? Les péquistes devraient être capables de bâtir des ponts avec des gens comme ça. Ils devraient pas brûler les ponts avec des gens comme ça, parce qu'ils sont peu nombreux et sont importants là, pour la suite des choses.
En fait, c'est difficile à... Je comprends pas le PQ depuis une couple de mois. Je les comprends pas. J'ai l'impression qu'ils manquent de visibilité, puis ils font des grandes sorties pour essayer... Le livre bleu, tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'occasions manquées par le Parti québécois depuis un bout. En fait, j'ai l'impression qu'ils se sentent glisser dans les sondages, puis ça les fait un peu paniquer.
Bien, je suis moins sévère que toi. Là, les élections arrivent, puis tout le monde a la partisanerie dans le toupet. Hein? Déjà, faut dire ça. Enfin, tout le monde, plusieurs, là, surtout chez les militants. Dans le cas du PQ, ce qui le fait souvent mal paraître, c'est que Saint-Pierre Plamondon est très, très cohérent avec sa position. Là. Donc, il y aura référendum. Voici ce que mon pays va être, et ainsi de suite. Et là, évidemment, ça soulève plein d'occasions de le radicaliser lui aussi, si tu veux. Ensuite, la méthode est peut-être pas toujours la bonne, je te concède ça volontiers. Mais la réaction face à Rousseau, évidemment, elle est normale parce que les péquistes pensaient qu'il était un des leurs. Et là, il s'en va à la CAQ. Alors évidemment, bon, ça fait de la pépine. Mais encore une fois, y a un problème avec le péquisme dans le tout ou rien référendaire. Lorsque les péquistes
Avec les péquistes 5.0, je veux dire avec les péquistes de Paul-Saint-Pierre Plamondon.
Oui, oui. Lorsqu'ils sont redevenus clairs sur la question du référendum, ils ont éloigné toutes sortes de gens qui voulaient juste gouverner au centre-gauche, hein, puis qui s'accommodaient. Ils faisaient la petite génuflexion souverainiste, puis on passait à d'autres choses. Alors ça, je pense que c'était bien pour eux. Mais ils ont aussi perdu des gens comme Rousseau, qui est une mouvance qui compte au Québec, de gens qui sont tout à fait nationalistes, mais qui souhaitent procéder autrement. Là.
Tu dis des gens comme Rousseau, des gens comme Bernard Drinville, des gens comme Christine Fréchette. Là. C'était tout du monde qui sont partis du PQ pour aller défendre l'option nationaliste avec la CAQ.
Oui, je te dirais que je loge davantage Fréchette chez les gens qui veulent gouverner puis qui étaient plus ou moins souverainistes. Drinville, c'est une autre affaire. T'as raison, là, Drinville. D'ailleurs, il a salué, évidemment, l'arrivée de Guillaume Rousseau à la CAQ. Mais donc, il faut faire attention, il faut le regarder aller. Rousseau, c'est quelqu'un qui va, s'il est élu, peser en politique. S'il n'est pas élu, il va continuer à peser quand même, de toute façon, parce qu'il y a une ligne... d'ailleurs, qui peut rejoindre à bien des égards l'autonomisme de Duhem aussi, hein, qui avait coécrit le programme, la section autonomiste du programme de l'ADQ à l'époque. Il devrait y avoir des ponts entre le péquisme et ça davantage. Je comprends que c'est compliqué quand les gens ne se présentent pas dans ton parti, là. Mais peut-être qu'en amont, ça aurait dû se passer. Et le tout ou rien, encore une fois, là, on va gouverner jusqu'à ce que les sondages nous permettent de faire un référendum. Ben, c'est une sorte de quitte ou double qui plaît pas à tout le monde, non?
Je vais rapidement, là, parce que le temps file quand même. Mais en tant que parolier d'Éric Lapointe, est-ce que tu...
Très peu, hein? Mais
jamais. C'est important. Je voulais juste que tu changes ton chapeau. Est-ce que tu penses que tu devrais avoir un filet social, là, justement? Parce que quand même coupable d'Éric Lapointe, tu fais un bout de ses sorties, là. Tu dois fouiller les vidanges pour manger.
Ah non, écoute, moi j'ai des belles redevances de 3-4 piastres à tous les 6 mois. Je me fais un plan de retraite formidable avec ça. Non, mais écoute, moi si j'avais été conseiller en relations publiques envers les artistes qui se sont exprimés dans ce dossier-là du Journal de Montréal, je leur aurais dit, passe ton tour.
Ferme ta gueule. Ben, oui, c'est un peu parce qu'on vient de parler à Louis Morissette, c'est un peu ce qu'il dit. Là, il trouve qu'ils ont l'air de des quêteux.
Oui.
Puis il a raison, mais là, moi, surtout, ce que je retiens, c'est que ça fait deux personnes, là, deux de ces artistes-là qu'on a vus, qui sont sortis sur les médias sociaux pour dire « Attends un peu, là, mes propos ont été mal rapportés. » Ils s'inscrivent dans le club des mal-cités.
Le club des mal-cités, le club de ceux qui avaient mal pensé à leur affaire avant de parler aussi. Parce que c'est le dossier du journal, c'est correct. C'est intéressant qu'on sache ça comme d'autres choses. Ah, voici un corps de métier où les gens ont de la difficulté. Merci, on le sait. Mais une fois qu'on a dit ça, les artistes, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des commerçants. On l'oublie, là. Mais quand tu fais le choix d'aller dans cette branche-là, tu ne choisis pas la sécurité d'emploi.
Mais voilà.
Tu sais que tu vas devoir bûcher. C'est exactement comme l'entreprise. Je le sais, j'en ai une. J'ai fait les deux. C'est pareil. Tu vas manger du Kraft Dinner pas mal longtemps.
Mais à l'inverse,
si tu
Nick...
Si tu as du talent, sky is the limit. Après.
Mais à l'inverse, Nick, le beau côté, c'est que jamais tu vas te lever avec la tête dans le cul en te disant « ça me tente pas d'aller travailler ».
Ah, oh, ça m'est arrivé.
Ça
devient alimentaire comme tous les jobs, mais...
Tu vois, je ne l'ai pas encore, moi, depuis que... La job que j'ai là, ça m'arrive pas, là.
Moi non plus.
Quand j'ai à peinturer, mettons, chez nous la fin de semaine, avant, avec mon ancienne job, je trouvais ça le fun de peinturer parce que c'était plus le fun que ma job. Là, c'est totalement l'inverse. Je suis rendu au bout où... si j'ai quelque chose à faire la fin de semaine, que ce soit l'entretien de la maison, quoi que ce soit, je préférerais avoir une journée de travail.
Donc, mais je suis d'accord avec toi.
Les artistes sont à peu près tous dans ces conditions-là. ça fait suer de demander au gars qui travaille comme électricien ou encore sa voirie à 32 degrés. Lui, il entend ça puis il se dit, tu peux bien manger de la merde, toi.
Ben oui, mais il entend ça puis ils sont nombreux puis c'est pas très, très élégant, c'est pas très gentil pour eux. Il y en a une qui disait, là, parmi les artistes, elle disait, moi, j'attends que le téléphone sonne puis il sonne pas. Mais c'est parce que c'est pas ça le travail d'un entrepreneur. Tu écris une pièce, crée-toi un rôle. Pousse, bûche, c'est pas sûr que ça va marcher, mais ça fait partie du jeu. Puis si jamais ça marche, ça peut marcher très bien aussi. Là.
Ce que Fabien Cloutier a fait, l'exemple que tu donnes, Fabien Cloutier, il a écrit deux pièces de théâtre où il s'est mis en vedette, puis là, je pense qu'il manque pas de job.
Oui, oui, puis ils sont plusieurs à faire ça, mais j'en ai croisé plusieurs. Puis il y en a plusieurs qui vont effectivement travailler dans d'autres domaines, dans les périodes creuses, et puis ça fait partie de l'affaire. Le guitariste syndical qui demande à ce que la société assure son emploi, il s'est trompé de job. Et en tout cas, il s'est certainement trompé quand il va pleurer dans les médias.
Mais parlant de pleurer sur de la pluie, quand tu travailles plus, puis que les stations... Non, mais pour vrai... Quand tu travailles plus et que les stations de radio te jouent plus, tu t'achètes un vignoble, tu mets une salle de spectacle dessus puis tu invites le monde à venir te voir en show, tu crées ton travail.
Oui, c'est ça. Évidemment, il faut pouvoir s'acheter un vignoble.
Il faut faire des spectacles dedans.
Il faut que la législation t'aide un peu, effectivement.
Ouais. Ah, mais écoute, combien, moi, d'ex-grandes vedettes j'ai croisé comme vendeur dans des magasins de musique? Des fois, c'est ça qui va arriver aussi, mais c'est pas pire. C'est certainement pas pire que travailler dans une usine ou, comme tu dis, faire de l'asphalte ou être au 14e étage à 37 degrés, comme c'était ces jours-ci, là, en train de poser du Canexel. Fait que... Soyez donc reconnaissants et surtout, soyez conscients. Tu sais, on parlait de déconnexion tout à l'heure.
Effectivement, c'est une belle déconnexion. Merci, Nick. On s'en parle la semaine prochaine?
Quand tu veux, parfait. Semaine prochaine.
Salut, man. Bye-bye.
Bye.
Nick Payne. Oui, non, c'est pas une joke. Nick Payne a vraiment déjà écrit des paroles pour Éric Lapointe. Ah. Il y a ça dans son CV, lui. Toi, t'as-tu ça?
Non, j'ai pas ça.
Moi non plus,
j'ai pas ça. C'est tout à son honneur.
La vidéo, elle est ultra partagée, cette vidéo-là de l'armée canadienne. C'est-tu les cadets? C'est-tu l'armée?
Ça donne l'impression que c'est ça, mais en même temps, on a un problème de leadership dans les Forces armées canadiennes présentement. Là. Quand t'as pas des bons gestionnaires, des bons adjudants-chefs qui enseignent les bonnes choses aux troupes, ça donne du monde de force.
Tu sais, une prof de maternelle qui montre une chorégraphie assez...
Oui.
À ses petits bouts de chou pour le spectacle de fin d'année. Où il n'y en a pas un qui... Tu sais, c'est facile, là, vire la main, fait ça, vire de bord.
Il y en a un qui regarde ses parents.
C'est ça, 360. Il y en a qui ne sont pas là partout. Il y en a un qui se fouille dans le nez. Il y en a un autre qui se vire de bord, regarde son prof. Il y en a un autre qui retient une envie de caca. Ils sont tous mélangés. Il n'y a personne qui marche. Puis c'est ça, tu t'attendais à ça. Les parents filment, ils trouvent ça drôle. Mais là, c'est parce que c'est une vidéo d'une marche de drill là, de l'armée canadienne. Puis on dit l'armée canadienne, j'ai trouvé qu'ils ont l'air assez jeunes. J'espère que c'est des cadets.
Non, c'est pas des cadets.
C'est des grands flambeaux et des bras.
Il n'y en a pas un égal.
T'as déjà vu des vidéos des parades de l'armée chinoise?
Ben, tu vois, mais j'en ai
déjà... Pike, là, Amérique aussi.
Commence pas sur la Chine, Max. La Chine...
Oui, mais en même temps, s'il n'y a pas...
Sens la Chine?
En même temps, il y a un sniper qui est là, puis s'il y en a un qui n'est pas correct, il se fait sniper.
Oui, mais c'est la différence entre les deux. Ouais, au state aussi, sont tight. Tout un temps où ici, on était tight.
Quand
j'étais plus jeune, mon père était sur la garde en rouge. Là. C'était tight.
Puis là, on ne voit pas sur les caméras, mais ça se peut fort bien que les bottines ne soient pas cirées. Là.
C'est sûr que non.
Ouvrez vos médias sociaux. Je me suis fait envoyer la vidéo il y a quoi, 25 minutes? Et depuis ce temps-là, tout le monde la partage. C'est sûr, vous allez voir ça. Des gens de l'armée canadienne ne sont pas capables de marcher ensemble. En fait, je vous dirais que le train qu'il y a au terrain de jeu ce matin à l'école, la ritournelle, sont plus synchronisés que ça.
C'est gênant, man. Si on part en guerre, moi, je déménage.
c'est ça où je me cache.
Mais quand c'est un bras, je vais marier ma cousine. Pour être sûr de ne pas fêter avec eux autres.
Wow. 8h34.
Morel. Wow. Restez là. On revient dans pas long.
Live.
Radio X.